Si on m'entend. Ah d'accord, ok. Avec Karl à la technique et Dominique qui vient nous rejoindre pour l'émission littéraire. Bah qui nous a fait défaut, vous nous avez manqué les gars. Depuis le temps.
Et ça arrive comme ça, des petites semaines à vide.
Ah ouais, j'ai répondu je sais pas combien d'appels. C'est quand l'émission littéraire.
Ah, qui s'appelle voilà. Du fictionnaire.
Tout à fait.
Ah, mais c'était très bien ce que tu nous as passé, Wallace. Merci. Très bien, très groovy, très progressif. Commencer lentement comme ça, avec des petits sons, et petit à petit, là, on était... Ça y est, on était en train de danser, quoi, dans le studio.
J'ai commencé par des sons un peu anciens, quoi, bassino sur FCOM, un peu de block and beat pour faire hommage à Karl. Voilà. Yes. Et puis on a varié vers des sons plus électro, plus actuels. Voilà, voilà.
Merci.
Merci à toi.
De rien, c'était avec plaisir.
C'est l'émission du fictionnaire.
À la semaine prochaine pour l'émission du Saint-Disque.
Poser des questions à des personnes qui écrivent des livres, de toutes les disciplines, sans séparer la fiction de la théorie. L'émission du fictionnaire. Le fictionnaire est le démocrate de la fiction.
Des interviews longues
des
de
interviews
créateurs
de fiction
sur support écrit
dans les disciplines des sciences humaines. De Pierre Guyotat à Bruno Latour. Le fictionnaire est cette figure curieuse de tout. Pour le futur, mieux vaut chercher l'hétérodoxie la plus grande. L'émission du fictionnaire.
Karl, ce soir, deux invités, deux interviews, un philosophe et plutôt un historien de l'économie. Nous terminerons en deuxième partie de cette émission avec Arnaud Aurin pour son nouveau livre paru chez Gallimard dans la collection NRF Essai, « Les savoirs perdus de l'économie, contribution à l'équilibre du vivant ». Et grâce à lui, nous comprendrons à quel point les disciplines économiques se sont séparés de toutes les conceptions de la catastrophe climatique et écologique et ne comprennent pas bien ce qui se passe. Ils sont illettrés en rapport du GIEC, si bien que ce livre-là va permettre de se réinscrire les savoirs de l'économie en faisant une histoire du 19e siècle, du 18e siècle et de comprendre comment, avant même que soient vraiment établis les dogmes de l'économie capitaliste, il y a eu deux écoles fin 18e siècle qui n'ont pas essaimé, qui n'ont pas eu de continuateurs, donc qui ne sont pas devenus majoritaires de manière économique et qui auraient pu permettre justement de contribuer à l'équilibre du vivant, d'où le sous-titre, deuxième partie de l'émission du fictionnaire. Et nous commencerons avec le philosophe Elie Düring pour un article paru en 2022 dans la revue Critique, cet excellent dossier qui s'appelle « Vous avez dit nature ». Et c'était pour son article qui s'appelait « Bruno Latour et les extraterrestres ». Donc nous allons parler d'écologie, de catastrophes climatiques également, sous le prisme de ce rapprochement qui est un peu, comment dire, controversé chez les latouriens, qui est de dire qu'il y a besoin des extraterrestres, puisque Bruno Latour est le théoricien du terrestre. Et ça, c'est dans quelques minutes avec le philosophe Elie Düring. Mais avant, Karl, là, tu vas nous mettre à jour nos connaissances en charpentier.
Oui. Jacques Charpentier, on en avait passé il y a quelques temps, vous vous souvenez? Oui, hein.
Bah, c'était l'émission dernière ou celle d'avant-dernière.
Oh, peut-être même il y a 3 mois. Et du coup, je vous l'avais vendu comme un monsieur qui avait travaillé sur la musique indienne sans pour autant passer un vrai morceau extrait de ses fameuses études carnatiques, parce qu'on parle de ça. Charpentier, il est né en 1933 et en 1952, il va faire un voyage en Inde, donc assez jeune, qui va le marquer à vie. Et il va vouloir en fait faire évoluer le piano vers la musique savante indienne. Hein, on l'oublie pas, la musique savante, elle n'est pas qu'en Europe. Donc, il s'est intéressé un peu aux sonorités carnatiques, au mode carnatique, pardon. Donc, je vais lire les notes de ligne d'Olivier Messiaen, c'est lui qui en parle le mieux, hein, moi je ne sais pas parler. Donc, on a dans le mode carnatique 7 sons avec 3 sons immuables, une dominante, une sous-dominante et une tonique. Les 4 sons intercalaires peuvent être affectés pour tous les accidents possibles, donc ça donne 36 modes. Voilà. Donc, il va faire bouger le piano sur ce mode-là en essayant parfois de l'utiliser comme une percussion. C'est pas que des notes, c'est aussi une façon de taper sur les notes et une façon de mettre en résonance certaines notes pour arriver à reproduire une sonorité de tabla ou une sonorité de vina. Il y a vraiment une démarche mécanique aussi percussive dans ce truc là. Et on va écouter un extrait assez mélodique, pas trop percussif, qui est extrait du troisième cycle de ses études carnatiques de Jacques Charpentier. Le morceau s'intitule Vaculabarna et c'est l'étude numéro 14. Bonne chance.
Et bonne écoute. L'émission du fictionnaire Radio Campus Orléans. Aurélie Düring, merci beaucoup de me recevoir chez toi. Nous parlons d'un article que tu as écrit pour la revue Critique, le numéro 903-904 d'août-septembre 2022. Cet article a donc un an. Dans cette revue Critique, c'était pour le dossier « Vous avez dit nature », dossier que tu as co-organisé. Et donc, nous parlons de ton article qui s'appelle « Bruno Latour » et les extraterrestres. Et pour cet article, tu as fait usage du livre écrit par la scientifique, par l'exobiologiste Nathalie Cabrol, et c'est ton point de départ dans cet article, et j'aimerais que tu nous parles de la lecture que tu as fait de Voyage aux frontières de la vie de l'exobiologiste Nathalie Cabrol.
Oui, alors c'est en effet le point de départ, ce livre de Nathalie Cabrol. Entre-temps, elle en a publié un nouveau. Ce livre, alors est-ce qu'elle est exobiologiste au sens strict ? Peut-être non. Au fond, elle a une formation de géologie planétaire, mais en fait, par extension, et peut-être en généralisant, on peut l'appeler exobiologiste parce qu'elle s'intéresse en effet à la question de la vie extraterrestre, littéralement. Son livre m'a beaucoup intéressé parce qu'elle y décrit notamment son activité évidemment de scientifique, mais aussi la pratique de la plongée dans des lacs andins en très haute altitude, où elle essaye de retrouver en s'immergeant donc dans des bancs d'algues vertes, en prélevant des cyanobactéries, elle essaye de retrouver des conditions qui auraient pu être celles de la formation de la vie sur Terre il y a plusieurs milliards d'années. Mais elle le fait, et c'est ça qui m'a fasciné immédiatement dans son texte, elle le fait en se branchant mentalement sur la vie extraterrestre, ou la possibilité d'une vie extraterrestre, en l'occurrence Mars, puisqu'elle a été impliquée dans plusieurs missions de la NASA qui consistent à aller faire un travail d'exploration et aussi de prélèvement de la surface de la planète Mars. Ce qui l'intéresse, elle, c'est de travailler sur cette diagonale Terre-Mars en essayant de retrouver dans certaines traces de vie terrestre primitive une sorte d'analogue ou de métaphore de ce que pourrait être aujourd'hui, de ce que pourrait être encore aujourd'hui quelque chose de la vie extraterrestre. C'est cette espèce de position subjective étrange hein, qui prend en diagonale comme ça l'espace interplanétaire qui m'a immédiatement intéressé, au-delà des enjeux scientifiques et même métaphysiques qu'elle évoque également. Donc j'étais parti de là, de cette espèce de construction d'un pont, d'une arche métaphorique ou analogique qui permet de penser la Terre et Mars, non pas exactement comme des planètes jumelles, de toute façon elles sont dans une sorte de rapport de décalage temporel l'une par rapport à l'autre, mais plutôt quelque chose comme un rapport métaphorique où l'imagination scientifique peut se transporter d'un lieu à l'autre, retrouver la Terre comme un palimpseste qui témoignerait d'une sorte de coévolution au-delà des limites habituelles, ce qu'on appelle la zone critique, cette enveloppe fragile qui entoure Gaïa. Il y a quelque chose là qui excédait immédiatement cet imaginaire géocentré, planétocentré, qui est un peu le ton dominant, je dirais, de la conversation philosophique aujourd'hui.
Alors, tu viens d'employer le terme de Gaïa. Cette scientifique va te permettre de penser à nouveau frais la Gaïa de Bruno Latour, on va dire la version de Bruno Latour concernant Gaïa.
Oui, et donc le titre de l'article, non, puisque c'est de ça qu'on part, Bruno Latour et les extraterrestres, je précise qu'extraterrestre est placé entre guillemets, puisqu'il ne s'agit pas littéralement, et quelle que soit la signification qu'on leur donne, des extraterrestres, petits bonshommes verts ou cyanobactéries martiennes, mais il s'agit justement d'une sorte de retournement du terme terrestre, tel que Latour, dans le contexte de ses recherches autour de l'hypothèse Gaïa, et l'a employé. Donc, Latour parle des terrestres, de ce peuple, très largement inconscient de lui-même encore, et auquel il demande de prendre plus clairement conscience de ses propres enjeux. Les terrestres, ça désigne au fond la condition commune qui est celle d'une humanité qui se rend compte de plus en plus vivement et un peu à ses frais quoi, de son intrication avec la niche écologique qu'elle a contribué à transformer. Et donc dans l'horizon des bouleversements climatiques qu'on connaît. Donc Latour réinvestit l'hypothèse Gaïa, qui n'est pas strictement de lui, enfin lui donne un sens nouveau pour métaphoriser un peu cet enjeu général qui est de prendre conscience de notre condition de terrestre. Et donc moi j'appelle extraterrestre justement une autre version possible de ce commun de l'humanité, une autre prise de conscience possible qui serait la condition extraterrestre de l'humanité, extraterrestre au sens vraiment littéral, ce serait la première strate qu'on pourrait discuter ou explorer, c'est le fait que, selon un certain nombre de théories scientifiques, qui remontent à loin, hein, mais qui rejoignent aussi une sorte d'imaginaire panspermiste, la vie, le développement de la vie terrestre, et donc singulièrement de la vie humaine, serait une sorte de résidu, une sorte de produit dérivé d'un processus qui s'étend sur des milliards d'années et qui ne concerne pas spécifiquement la planète Terre. Donc l'idée qu'on ait des poussières d'étoiles, l'idée que la vie aurait pu se propager sur la Terre à partir de rafales de météorites qui auraient atteint la surface de notre planète, etc. etc. Bon, c'est des questions qui sont débattues, qui sont des vrais enjeux scientifiques aujourd'hui et qu'on ne peut pas totalement ignorer. Ça, c'est la première strate. Après, il y en a d'autres, bien d'autres, y compris des enjeux politiques, mais on pourra en évoquer quelques-uns. Mais c'est ça qui me faisait dire qu'il y avait quelque chose à travailler du côté d'une hypothèse extraterrestre qui serait l'hypothèse d'une version possible de l'humanité, avant d'envisager de façon plus directe et frontale la question de l'existence des extraterrestres, ou disons d'une vie extraterrestre. C'était la question de notre mode d'existence à nous, humains. Est-ce que la question ou l'enjeu se résume à ce que Latour en a dit, et de façon très vive hein, dans ses derniers livres, ou Atterrir, Gaïa, évidemment, à savoir l'enjeu d'une sorte de prise de conscience de notre condition terrestre. Je pense qu'il est tout aussi urgent de prendre conscience de notre condition extraterrestre, en un sens, justement, qu'il faut préciser un peu.
Alors, il y a aussi cette idée que cette question extraterrestre offre l'occasion de tester la capacité d'accueil du projet diplomatique de la Tour. C'est quelque chose aussi qui te travaille dans l'article, c'est tester les possibilités d'accueil du projet latourien. Tu en fais quelque chose à penser.
Oui, parce qu'au fond, la question, c'est s'il existe des extraterrestres au sens que j'ai en vue. Et donc, disons, la première détermination du collectif extraterrestre, dont j'essaie de définir les contours, la caractérisation la plus immédiate, la plus littérale, ce serait des gens, des collectifs, peut-être très hétérogènes, mais enfin qui ont tous en commun de s'intéresser aux extraterrestres. Donc ce que j'appelle ici les extraterrestres, c'est les humains ou les collectifs humains qui prennent la question extraterrestre au sérieux, au fond, pour aller vite. Et donc immédiatement, la question en retour adressée à la Tour, c'était bon, bah, jusqu'à quel point, en effet, le projet diplomatique, qui consiste à incorporer dans cet horizon terrestre, a priori maximalement accueillant et ouvert, de tester la capacité d'y incorporer, oui, bah justement, de donner une place aux extraterrestres, sur un mode qui ne soit pas celui, non pas du rejet ou de l'exclusion, hein, ce n'est pas du tout la manière de la Tour, il est en effet hyper accueillant et diplomatique, mais qui ne soit pas l'assignation, disons, a priori, à un imaginaire que la Tour décrit très bien, mais dont on peut se demander d'ailleurs au fond ce qu'il décrit exactement, à qui il s'applique exactement et qu'il appelle, disons, l'imaginaire naturaliste. Est-ce que les extraterrestres, que ce soit les scientifiques comme Nathalie Cabrol, que ce soit les obsédés d'ufologie, hein, les enquêtes sur les ovnis, ou que ce soit des philosophes autour d'esprits métaphysiques qui s'intéressent à la question de la vie dans l'univers, bon, ces extraterrestres-là, est-ce qu'ils peuvent être accueillis dans l'horizon de l'enquête latourienne, autrement que comme les représentants un peu attardés quoi, de ce qu'il appelle, lui, le naturalisme, c'est-à-dire, au fond, une position un peu hors sol qui consiste à penser notre petite affaire humaine comme une émulsion à la surface de la planète, mais qui s'insérerait dans un vaste univers gouverné par des lois physiques éternelles, et dont on pourrait en effet se demander si objectivement il contient autre chose que de la vie terrestre. Pour la Tour, cette manière d'aborder le problème extraterrestre est généralement et immédiatement indexée à ce qu'il appelle, lui, le naturalisme, c'est-à-dire justement aussi, d'un point de vue politique, une certaine manière de séparer les questions de fait, quoi, les questions objectives, les questions scientifiques et les questions humaines ou culturelles ou politiques. C'est une façon de partager les sphères d'activité et d'intéressement qu'il appelle le naturalisme. Et bon, pour terminer sur ce point, moi, il me semblait que ceux que j'appelle les extraterrestres répondent assez mal à cette description, enfin correspondent assez mal à cette description du naturaliste attardé. Ça pourrait convenir à quelques scientifiques, à la rigueur, hein, qui travaillent à la NASA ou dans ces parages, mais je dirais pour la majorité des gens pour lesquels la question extraterrestre est un enjeu vif et vivant, la catégorie naturalisme, je pense, s'applique assez mal.
Par exemple, à Nathalie Cabrol.
Alors, surtout pas à Nathalie Cabrol, toute scientifique qu'elle est, et toute soucieuse qu'elle soit de, en effet, mettre en évidence des faits objectifs concernant l'exovie, pour aller vite, dans des contextes extraterrestres habitables, eh bien, elle est aussi animée très manifestement par disons, des enjeux, des questions qui sont à la fois subjectivement très intenses, c'est manifeste dans son écriture, et qui aussi résonnent immédiatement avec des questions métaphysiques tout à fait partageables, qu'on peut réactiver, qui renvoient pour une part au pari pascalien, et pour une part à quelque chose d'un peu indiscernable, d'un peu indécis, qui concernerait justement l'hypothèse d'une vie étendue, d'une vie qui ne se définirait pas strictement par rapport à ce qu'on connaît de la vie humaine ou animale, et qui peut-être serait mieux caractérisé par disons, des moyens extra-biologiques. C'est ça qui est tout à fait nouveau. C'est-à-dire qu'on essaye de penser la vie aux frontières du vivant et du non-vivant aujourd'hui, avec des outils tout à fait nouveaux. C'est un des enjeux de l'exobiologie.
Alors, est-ce que tu peux parler un peu plus de ce concept de vie étendue ? Parce qu'elle n'est peut-être pas centrale complètement dans ton article, mais néanmoins, c'est quelque chose peut-être qu'il y a à faire entendre. Ouais. Ce concept de vie étendue, effectivement, on l'entend de plus en plus. Et ça peut nous permettre de mieux, comment dire, appréhender le phénomène extraterrestre autrement que... ufologique autrement que petits hommes verts.
Oui. Disons, la vie étendue, d'ailleurs, les anglo-saxons ont des ressources pour le dire. Ils ont commencé à orthographier life avec un Y. Et donc, pour que ça s'entende à l'oreille, ils le prononcent life, une sorte d'accent vaguement écossais. Et en français, on pourrait dire la vie avec un Y, V-Y-E, et il faudrait le prononcer la vaille, quoi, quelque chose comme ça. Donc la vaille, la loif, l'idée de la vie étendue, en fait, c'est l'idée d'une... Enfin, c'est le projet ou c'est la proposition qui consiste à travailler, à enquêter sur la possibilité d'une vie extraterrestre en faisant l'économie d'un certain nombre de présupposés que jusqu'ici, on avait admis pour enquêter sur les phénomènes organiques, sur les questions d'évolution, etc. Et notamment, une certaine idée, par exemple, de la place essentielle que remplit le carbone, par exemple, dans le développement des formes de vie primitives. Bon, aujourd'hui, on explore de façon assez sérieuse la possibilité que la vie puisse s'étayer sur du silicium, par exemple, qui est présente abondamment dans l'univers, ou sur d'autres modèles qui... n'aurait en commun, du coup, qu'une sorte d'abstraction formelle de ce que pourraient être les conditions essentielles, mais au fond abstraites, de tout ce qu'on croit savoir de la vie sur Terre, et réduites à une sorte de quintessence. On pourrait lister les quatre ou cinq caractéristiques fondamentales de la vie au sens étendu, mais l'une d'elles, par exemple, c'est une propriété, mais à nouveau très formelle, d'autoréplication. Pas forcément sur le mode ADN, mais qui est au moins pour qu'il puisse parler de vie, il faut au moins cette capacité d'auto-réplication sur quelque chose comme une phylogénèse, une filiation. Bon. Il y aurait des caractérisations du même ordre touchant par exemple la question de l'interaction avec le milieu, la capacité d'un vivant entre guillemets ou d'un va-et-vent comme il faudrait dire maintenant à interagir avec son milieu toujours un peu loin de l'équilibre, hein, toujours dans un rapport de transfert énergétique instable, hein, qui implique que ça reboucle pas exactement sur soi, donc possibilité de détruire sa niche écologique, mais aussi de la consolider, et bref, un ensemble de caractéristiques, mais énoncées à un niveau très formel, en utilisant des outils scientifiques, et notamment de théories physiques, comme la thermodynamique, comme la théorie de l'information, enfin... Pour cerner en quelque sorte le concept de vie de l'extérieur, depuis ses bords, justement depuis la frontière entre vie et non-vie. Alors ça, c'est une question que toutes sortes de gens retrouvent aujourd'hui, bon, y compris pour parler de la vie sur Terre. Je pense au travail de Thomas Hime sur l'infravie. Enfin bon, c'est une question qui est dans l'air depuis longtemps, mais là, dans le cas de l'exobiologie, ça devient absolument vital, parce que s'en tenir à une idée en quelque sorte géocentrée de ce qu'est la vie ou ce que doit être la vie ailleurs, ce serait absolument ruineux, puisque ce serait s'interdire de la détecter en vérité. Là, l'idée, puisqu'on n'en est pas du tout encore à prélever des échantillons et à faire de la chimie extraterrestre, on en est à faire de la spectrographie, donc en analysant le rayonnement des planètes supposées habitables. Il y a des rovers qui sillonnent la surface de Mars et qui essayent de détecter des choses. Mais bon, on est quand même très loin de pouvoir intensivement étudier des phénomènes de proto-vie sur des planètes habitables ou supposées l'être. Donc, on est obligé de s'en remettre à ce qu'ils appellent, et Nathalie Cabrol en parle un peu dans ses livres, et je trouve l'expression elle-même passionnante, enfin très, très stimulante d'un point de vue épistémologique, ils appellent ça des méthodes agnostiques. Sous-entendu, on ne sait pas très bien ce que c'est que la vie, on met cette question en suspens, Donc agnostique, ça ne veut pas dire qu'on est agnostique quant à savoir s'il y a de la vie extraterrestre. Ils sont tous, je dirais, méthodologiquement croyants, au sens où il n'y aurait pas de projet scientifique si on ne faisait pas l'hypothèse que c'est possible et que c'est même très vraisemblable. Mais ils sont agnostiques quant aux manières de détecter cette vie, et certainement quant au concept même de la vie. On ne sait pas très bien ce que c'est que la vie, et donc à nouveau, le prototype qu'on a de la vie organique, telle qu'on la connaît sur Terre, ne doit pas constituer un obstacle épistémologique qui nous empêcherait de détecter des formes de vie totalement autres. Et donc parmi les outils de recherche et de détection qui sont mis en œuvre, il y a des procédés d'intelligence artificielle qui consistent à scanner simplement à partir de documents photographiques la surface d'une planète pour y détecter, et là c'est presque de l'ordre du bruit ou de l'anomalie statistique, y détecter quelque chose comme ce qui pourrait être interprété comme les traces d'un processus d'habitation, des structures d'accrétion, enfin des sortes d'architecture absolument minimales qui pourraient attester du fait que des bactéries ont commencé à travailler le sol de cette planète, peut-être il y a des millions d'années. Mais c'est un type d'approche du phénomène de la vie qui est absolument, absolument nouveau, méthode agnostique, et que je trouve passionnant pour cette raison. Donc la vie étendue, c'est pas simplement un projet spéculatif ou une hypothèse scientifique, c'est aussi des techniques de mise en œuvre de nouveaux modes de détection qui devraient nous faire réfléchir.
Alors, je renvoie les auditeurs et les auditrices à l'interview que j'avais eue justement pour le livre Infravie de Thomas Eames, parce qu'effectivement c'était un livre dans la collection Science Ouverte, je crois, aux éditions du Seuil, paru maintenant il y a peut-être 7-8 ans, qui était vraiment important, enfin qui permettait au grand public non scientifique d'avoir en main justement et en idée ces différents concepts. Tu as bien parlé de la méthode agnostique. Tout à l'heure, tu as juste eu l'expression de pari pascalien.
Oui.
On a en tête le pari pascalien. Peut-être peux-tu le rappeler et peut-être peux-tu nous parler de ce qu'on peut en faire nouvellement, c'est-à-dire quel serait le nouveau pari pascalien avec cette idée derrière la tête d'existence de vie extraterrestre dans l'univers.
Oui, alors il y a plusieurs éléments. Le pari de Pascal, le texte célèbre des pensées de Pascal où il est question d'un pari. On l'a tous en tête et je vais juste en rappeler l'enjeu général. Donc la question est de savoir si on a de bonnes raisons de croire en l'existence de Dieu, en l'occurrence. Bon, mais l'arrière-plan, c'est plutôt l'arrière-plan de ce pari. C'est les conditions du pari qui m'intéressaient par rapport à la question extraterrestre chez Pascal, c'est très clairement, et ça s'est thématisé chez lui de plein de façons, c'était le sentiment d'une sorte de solitude cosmique. Voire d'un acosmisme, c'est-à-dire d'un univers dont on sait déjà à l'époque de Pascal qu'il est démesurément grand et tout à fait hors de proportion par rapport à la situation humaine.
Et pour écouter la fin de l'interview avec Elie Düring, il reste encore une demi-heure, sur www.émissionsdufictionnaire, vous retrouvez ça sur Google, et hop, vous avez dès ce soir l'intégralité. Nous allons passer à cette deuxième interview, celle avec l'historien de l'économie Arnaud Aurin, qui va nous apprendre comment il y avait deux écoles de l'histoire et de la science économique à la fin du XVIIIe siècle, et que c'était une contribution à l'équilibre du vivant. Donc on complètement dans les conceptions de l'écologie en retrouvant et en faisant la trace de ces deux écoles d'économie. Mais avant, un peu de clavecin parce que c'est Grand Piano Festival.
C'est ça. C'était un peu l'énigme de cette sélection. Le clavier sous toutes ses formes.
Ah.
Non, j'en sais rien, ça s'est un peu dessiné comme ça. Du coup, on passe du piano au clavecin avec Elisabeth Kojnaka. Peut-être Shojnaka, Shojnaka plus. Extrait de l'album Clavecin 2000. On a plusieurs œuvres en fait contemporaines qui vont être interprétées au clavecin. Voilà. Donc on va s'écouter rapidement. J'enlève mes lunettes. Un thème d'Aldo Clementi qui s'intitule Intavolatura. Et c'est Elisabeth qui s'y colle. Et vous allez voir, ça décoiffe.
Dans une bien belle pochette, tout en gris et qui donne mal aux yeux et au cœur si on l'agite devant nos yeux. Émission du Fictionnaire, Radio Campus Orléans. Ah.
Passe-t-il ici au juste ? Posez des questions à des...
Bonjour Elie Düring, merci beaucoup de me recevoir.
Je suis en compagnie d'Arnaud Aurin. Nous parlons de votre nouveau livre, Les savoirs perdus de l'économie, contribution à l'équilibre du vivant, paru aux éditions Gallimard, où nous nous trouvons dans la collection NRF Essai. Votre livre, Arnaud Aurin, est un livre d'histoire, et particulièrement d'histoire des sciences et des savoirs économiques. Pouvez-vous nous expliquer votre titre, Les savoirs perdus de l'économie ? Et sous-titre, contribution à l'équilibre du vivant.
Merci d'abord de votre invitation. Alors ce titre, effectivement, il est important parce que la science économique, aujourd'hui, telle qu'elle s'est constituée depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, avec un renforcement très important à la fin du XIXe siècle, au travers de ce qu'on appelle la théorie néoclassique, elle a laissé de côté un certain nombre de... Alors, on peut les qualifier de sciences, je les qualifierais plutôt de savoirs, qui s'occupaient eux aussi de la satisfaction des besoins humains, mais pas seulement, mais pas que, avant ou de manière concomitante à la naissance de cette science, à la fin du XVIIIe siècle, disons dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Donc il y a des savoirs économiques qui se sont perdus au fil du temps dans une optique qu'on qualifie en général de téléologique, au sens où des gens, des savants vont aller rechercher la préhistoire d'une science. On a pu incorporer certains de ces savoirs perdus à l'intérieur d'une histoire longue de la science économique. Et c'est précisément ce que je réfute, ou ce que je tente de réfuter. C'est-à-dire l'idée selon laquelle, eh bien non, en fait, ces savoirs n'étaient précurseurs de rien. Ça, c'est une vision complètement biaisée et orientée de l'histoire de la pensée. Ces savoirs n'étaient précurseurs de rien, ils avaient leur vision propre, leur méthode, ils avaient des buts qui n'étaient pas ceux de la science économique, et l'idée de ce livre, c'est de les exhumer, car il est vraisemblable qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire sur les périodes passées, mais également sur ce siècle qui s'ouvre, le 21e siècle. Et j'expliquerai très certainement pourquoi avec le sous-titre, en fait. Donc d'abord, les savoirs perdus de l'économie, effectivement, c'est une tentative d'archéologie, de science ou de savoir des 17e et 18e siècles européens qui vont être engloutis, en gros, au début du 19e siècle, qui vont disparaître dans les premières années ou les premières décennies du 19e siècle et qu'il s'agit d'exhumer. Et il y en a deux, en particulier celle qu'on appelle la science du commerce et celle qu'on appelle la physique économique ou économique, on y reviendra. Le sous-titre, Contribution à l'équilibre du vivant, il explicite l'idée selon laquelle ces savoirs, ils ont probablement quelque chose à nous dire aujourd'hui. Ils ont quelque chose à nous dire aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien, parce que ces savoirs anciens, ils s'inscrivent seulement partiellement dans ce que l'anthropologue Philippe Descola a appelé l'ontologie naturaliste, c'est-à-dire cette grande séparation entre la culture et la nature, ou entre l'être humain et le reste, les autres animaux, les forêts, etc., etc. Cette ontologie naturaliste, elle naît, évidemment, comme le dit Descola, autour du XVIIe siècle. Elle progresse ensuite dans les décennies et siècles suivants, mais elle n'est pas complètement dominante, probablement, jusqu'au XIXe siècle. Et encore, ça dépend où dans le monde et dans quel type de population. Dans les populations rurales européennes, il n'est pas du tout certain que l'ontologie naturaliste soit complètement dominante, même au XIXe siècle. Donc on a des savoirs perdus des 17e, 18e siècle qui ne s'inscrivent que partiellement dans l'ontologie naturaliste. Et aujourd'hui, cette ontologie naturaliste, on le sait, elle est progressivement remise en cause. Remise en cause parce que nous accordons de plus en plus de droits aux autres animaux, aux bêtes, que des fleuves ou des forêts acquièrent des personnalités juridiques. Bref, qu'un autre rapport aux autres espèces vivantes est en train de s'instituer. Et que, probablement, le concept lui-même de nature, comme le dit Philippe Descola, est probablement un concept dépassé. Or, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que ces savoirs anciens des 17e, 18e siècle, ils s'inscrivent à la fois un peu dans l'ontologie naturaliste, mais aussi dans un autre rapport aux autres espèces vivantes que l'on pourrait qualifier, là encore avec Philippe Descola, d'ontologie analogique, c'est-à-dire l'inscription de l'être humain dans une grande chaîne des êtres, et qu'ils réfléchissent donc à une satisfaction des besoins humains à l'intérieur d'un équilibre des espèces. Et donc, il est vraisemblable que de nos jours, en ce début de XXIe siècle, ces savoirs perdus pour le moment, j'espère pas pour toujours, bien sûr, ont quelque chose à nous dire sur un nouveau rapport aux autres espèces du point de vue de ce que nous on appelle l'économie, c'est-à-dire l'idée selon laquelle eh bien, il y a des besoins à satisfaire pour les êtres humains.
Alors commençons par l'une, la science du commerce, par exemple. Ce que l'on apprend avec vous, c'est que cette science du commerce est plutôt du côté des vérités locales et plutôt du côté du non reproductible. Donc si on emploie les termes latouriens, on est dans le local, on est sur le sol, on a atterri, on est localisé, on n'est pas dans le global. C'est-à-dire que tout oppose la science du commerce à l'universel, à quelque chose qui serait partout, sur tous les territoires qui pourraient s'appliquer. Et donc déjà cette différence-là, cette distinction-là, on comprend par votre recherche que c'est pour ça qu'elle n'a pas eu vocation à être, à devenir des lois de gouvernement, à ce qu'elle ne soit pas utilisée de manière identifiée par les différents gouvernements, par l'État, justement parce qu'elle n'était pas du tout universelle. Pouvez-vous nous parler de cette science du commerce?
Oui, alors le premier savoir ou la première science que j'étudie dans ce livre, dans les trois premiers chapitres, c'est donc la fameuse science du commerce des 17e et du 18e siècle, 17e et 18e siècle, qui a longtemps précisément été interprétée comme une préhistoire de ce qui va naître quelques années plus tard ou quelques décennies plus tard et qu'on va appeler économie politique, puis science économique. Toujours, les chercheurs ont essayé de tirer cette science vers quelque chose qui serait précisément un savoir universalisable avec des lois qui devraient s'appliquer en tout temps et en tout lieu. Et ce que j'essaye de montrer, c'est que ça, c'est réellement une toute petite partie de la science du commerce, un pas dans lequel certains de ces théoriciens vont un peu s'engager dans les années 1750, mais ils vont très vite, en fait, très vite, plutôt faire demi-tour dans les années 1760, au moment où précisément naît l'économie politique avec François Quesnay, Victor de Mirabeau et la physiocratie. Où là, les théoriciens de la science du commerce vont se rendre compte qu'il y a un problème. En fait, hein, qui a un problème avec ces lois universelles généralisables. Alors, cette science du commerce, elle trouve son origine dans ce qu'on appelle l'ars mercatoria, l'art des marchands, en particulier au XVIIe siècle, qui se développe d'une manière un peu nouvelle avec l'extension du commerce européen lié en particulier à l'exploitation du continent américain. On va avoir des manuels, en fait, qui vont commencer à être publiés, en particulier en Angleterre au début du XVIIe siècle, qui expliquent comment commercer avec le lointain. Et donc, ce sont des sortes d'ouvrages de géographie commerciale dans lesquels on explique aux négociants eh bien, où sont les fleuves, les rivières, les types de pêche, les bois, les forêts, les types d'exploitation agricole qui se font outre-mer, et donc qui expliquent à ces négociants comment ils peuvent commercer avec ces autres territoires. Donc on a une grande description, si vous voulez, du monde à l'intérieur de cet ars mercatoria. Et progressivement, cet ars mercatoria, il va devenir un art de l'observation, une science qu'on pourrait qualifier de déterministe, qui s'appuie sur les connaissances de la géographie, de ce qu'on appelle à l'époque les climats, c'est-à-dire les précipitations, bien sûr, les températures, bien sûr, mais aussi la nature des sols, les exhalaisons, c'est-à-dire qu'est-ce qui se dégage de ces sols, la façon dont sont exploitées les forêts, les steppes, les différentes sortes de végétation qui y poussent, et les latitudes, bien sûr. Progressivement, donc, cette science déterministe va aussi devenir une histoire du commerce. On va faire l'histoire des produits, des marchandises, des biens qui ont été commercés ou qui sont commercés sur le territoire en question. À partir de là, en fait, un certain nombre d'anciens négociants, en règle générale, vont commencer à construire ce qu'ils appellent eux-mêmes une science du commerce. C'est-à-dire la façon dont, à partir de ces territoires donnés, à partir de cette géographie, il est possible de devenir un bon négociant. Donc d'en tirer à la fois de bonnes techniques, mais aussi ils vont commencer, certains d'entre eux, à partir du début du XVIIIe siècle, ils vont commencer à produire quelques abstractions sur ce qui ne sont certainement pas des lois, hein, et encore moins des lois naturelles, mais quelques abstractions sur des faits plus ou moins abstraits à partir de connaissances vernaculaires. Très vite, cependant, à partir des années 1750, on va avoir des doutes. On va avoir des doutes sur la façon dont il faut raisonner dans cette science du commerce. En fait, on a une école qui se crée à partir des années 1750 sous l'impulsion d'un ancien grand négociant de Cadix qui s'appelle Jacques-Vincent de Gournay, un natif de Saint-Malo, qui a fait, comme le disait Anne-Robert Jacques Turgot, le célèbre ministre de Louis XVI et économiste, qui a vu le plus grand commerce de la Terre, puisque Cadix, à l'époque, c'est la porte d'entrée des richesses venues de l'Empire espagnol et la porte de sortie des biens manufacturés qui vont s'écouler dans l'Empire espagnol, nonobstant la contrebande qui est évidemment immense. Jacques-Vincent de Gournay, il va rentrer en France à la fin des années 1740 en menant plusieurs des opérations publiques privées avec le ministre de la Marine, monsieur de Maurepas. Puis il va, au décès de l'un de ses partenaires, prendre le titre de monsieur de Gournay et s'installer définitivement à Paris, quitter le commerce et devenir un haut fonctionnaire, même si le terme de fonctionnaire n'existe pas à l'époque, un haut fonctionnaire au bureau du commerce. Il va devenir intendant du commerce. Et donc, il va, à ce titre, s'occuper de toute la matière réglementaire négoce en France. Et à partir de ce moment-là, il va réunir autour de lui un cercle de jeunes gens qui, pour beaucoup également, sont issus du milieu commerçant. Alors, la plupart ont fait un moins grand négoce que lui, hein, mais la plupart sont issus du milieu commerçant et négociant. Et ils vont traduire, ces jeunes gens, un certain nombre de textes venus d'auteurs espagnols, d'auteurs anglais. Ils vont un peu produire des textes de leur propre facture, mais relativement peu. Et ils vont pratiquer également ce que j'ai appelé là du collage de textes, hein. C'est-à-dire qu'ils vont mettre dans un même ouvrage plusieurs textes qui disent des choses contradictoires, avec une introduction qui nous explique que, eh bien, effectivement, il y a des choses qu'on trouvera des choses contradictoires dans ce livre, et sans conclusion, donc sans façon d'orienter le lecteur vers ce qu'il doit penser à la fin de tout ce qu'il a lu. C'est au lecteur de se forger une opinion. Alors ça, c'est un point très important de la science du commerce. Hein. C'est un point très important de la science du commerce. La science du commerce, elle utilise un langage relativement simple. Elle ne fabrique pas beaucoup de mots nouveaux. Elle ne fabrique pas beaucoup de concepts, voire très peu. Elle utilise des savoirs vernaculaires, ceux des marchands et des négociants, de tous ces gens qui ont voyagé dans ces pays lointains ou qui se sont appuyés sur des savoirs venus de ces pays lointains, sur des savoirs parfois de fermiers et de laboureurs également, hein, savoirs vernaculaires de praticiens en fait. Savoir vernaculaire de praticiens qui vont permettre d'établir un certain nombre de faits en fonction des environnements locaux. Et à partir de là, la science du commerce va construire un savoir qu'on pourrait qualifier de dialogique, au sens que donne à ce terme le théoricien de la littérature du XXe siècle, Michael Bakhtin. C'est-à-dire l'idée selon laquelle, dans un même texte, on va trouver plusieurs voix discordantes, voire même divergentes,
qui nous disent des choses souvent contradictoires et sans qu'un point de vue domine contre l'autre. Donc, si je prends l'exemple des traductions, traductions libres en général, pratiquées par les membres de ce cercle des années 1750, eh bien, on se rend compte que il y a une pensée par strate. C'est-à-dire qu'on traduit l'auteur, on met des notes contradictoires qui disent autre chose que l'auteur, mais on n'efface pas ce que raconte l'auteur. Et puis on digresse, parfois également, en disant autre chose que ce qu'a dit l'auteur. Donc cette pensée par strate, où les strates précédentes, les couches précédentes n'effacent pas, les couches supérieures n'effacent pas les couches inférieures, eh bien, elles doivent laisser au lecteur le soin de délibérer à la fin sur ce qu'il doit penser. Donc, on a dans ces années 1750 à la fois ce langage simple, cette science qui est fondée sur des savoirs vernaculaires de praticiens, sur des savoirs locaux également, hein, dans une pensée qui est dialogique, et en même temps, on a la tentation chez certains membres du cercle de Gournay de aller vers des principes un peu plus abstraits et un peu plus généraux. Cette tendance ne va pas durer, en fait, puisqu'au même moment, à la fin des années 1750, c'est la naissance, avec François Quesnay et Victor Riquetti de Mirabeau, de la première école de pensée qui va fonder réellement l'économie politique et qui va raisonner à partir de lois naturelles. En particulier, la loi naturelle de la liberté du commerce absolue et la loi naturelle de la propriété privée inviolable. À partir de ces deux lois naturelles, les physiocrates vont tirer un certain nombre de lois économiques qui doivent s'appliquer en tout temps, en tout lieu, qui sont parfaitement universalisables et à partir duquel le politique doit toujours se positionner. Il ne peut et ne doit déclarer que des lois économiques qui sont conformes à ce qu'ils appellent l'ordre naturel, à ces lois naturelles de l'économie. Très vite, les scientifiques du commerce vont sentir le danger. Ils vont sentir le danger d'une science nouvelle qui s'applique non plus sur des terroirs locaux, non plus à partir d'un savoir vernaculaire, non plus dans une perspective dialogique où c'est au lecteur de se faire une opinion, mais dans une proto-technocratie avec laquelle il va falloir maintenant compter et qui ne laisse plus de place réellement à la délibération. La science, elle doit être inculquée, elle doit être apprise. La science économique des physiocrates, elle doit être inculquée, elle doit être apprise, elle ne doit plus être discutée ou disputée. Donc très vite, les scientifiques du commerce, comme François Véron de Forbonnais, par exemple, vont s'opposer à la physiocratie et à sa science universelle. Et à la fin des années 1760, le même Forbonnais va publier un livre important, Principes et observations économiques, où il s'éloigne plutôt de la tendance qu'il avait eue une dizaine d'années auparavant de recherche de principes abstraits et défendre désormais ce qu'il appelle les vérités locales. Les fameuses vérités locales qu'on va retrouver également chez un théoricien comme Ferdinando Galiani qui s'oppose lui aussi à la science économique naissante, hein, des physiocrates. Des gens comme Forbonnais ou Galiani, ils vont discuter là encore de nouveau à partir du point de vue des praticiens locaux, du point de vue d'un territoire, voire d'un terroir donné, en nous expliquant qu'il ne peut exister que des vérités locales et qu'il est très difficile, alors, voire impossible, de déduire des lois économiques à partir d'un ordre naturel ou de loi donnée, mais qu'il est aussi difficile d'induire, de pratiquer l'induction, hein, d'induire des principes généraux d'un certain nombre d'observations. Ça aussi, c'est compliqué. Le mieux, c'est de raisonner à partir d'un problème local et de circonstances locales et de tenter de trouver de manière concertée, de manière dialogique, la meilleure des solutions à un problème économique donné. Donc l'idée, c'est aussi, si vous voulez, d'en appeler au public. D'en appeler au public. C'est pour ça que j'ai qualifié la science du commerce de science démocratique. Alors même si le terme est peut-être un peu fort, pour, du moins pour certains d'entre eux, l'idée étant toujours de publier des choses qui ne sont pas conclusives, qui ne s'appliquent qu'en un lieu et qu'en un territoire, ou voire un terroir donné, et pour lequel on demande au public de se forger une opinion.
Et la suite, dès ce soir, sur l'émission du Fictionnaire, sur Google, vous le trouvez, paf, il y a le site, et vous aurez l'interview de plus d'1h20 avec l'historien de l'économie Arnaud Aurin, et ainsi va s'achever l'émission du Fictionnaire, car là, un morceau d'un vinyle gris, mais avec une pochette un peu plus lisible que le précédent vinyle du milieu qui était donc...
On se croit au Tour de France, quoi. Et sinon...
Mais c'est ça, c'est descriptif, en fait. C'est, assez, c'est des pommes ou des cerises.
Et ben heureusement qu'on fait de la radio, moi je dis, vous allez entendre.
Un morceau mieux.
De Silver Apples, encore un, parce que ça, ça fait longtemps qu'on en passe dans l'émission de littérature d'abord, et au Fictionnaire peut-être pas encore. Mais groupe mythique, fin des années 60, ils ont partagé l'électrique Ladyland, le studio à New York avec Jimi Hendrix. Ils avaient le créneau d'avant, ça c'est l'anecdote que j'aime bien balancer. Sinon, ils étaient deux, Dan Taylor et Simeon, à faire de la musique avec des claviers, musique électronique, percussive pour Dan Taylor plutôt, avec du chant. Et Simeon avait lui développé un dispositif sonore qui permettait de faire de la musique, des mélodies, des boucles. Vous allez entendre ça si vous ne connaissez pas encore. Et qu'est-ce qu'on se donne comme rendez-vous ?
Mais dans 15 jours, il me semble, avec deux nouvelles interviews et trois nouveaux morceaux de vinyle. Voilà, c'est ainsi que se compose l'émission du Fictionnaire.
Oui.
Et juste après, t'en veux, c'est de la bonne, Jean-Marc, mais juste avant, et les morceaux cultes de Karl. C'est pas culte ?
C'est surtout pas mon morceau.
Ah, c'est pas ton morceau.
C'est juste de la bonne musique. Voilà.
Ah, mais oui, c'est ça.
C'est le principe.
Spells of rose, magic fingers through my hair.